Portrait. Portrait. Portrait d'Esperanza. Portrait d'Esperanza.
Il y a un côté qui est effectivement chez vous, maître, que le public ne connaît pas, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup.
Je m'appelle François. À Esperanza, je m'occupe de la base de données de tous les bénévoles et travailleurs, du catering, du logement principalement, donc plus un volet intendance, on va dire. Par ailleurs, ben voilà, je travaille comme directeur dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge à Natoua. Donc Natoua, c'est entre Namur et Ciney, entre le National 4 et le 411. Voilà, à 10 minutes de Ciney et un quart d'heure de Namur.
J'avais jamais vu un centre de la Croix-Rouge. Je suis arrivé par le chemin. Là, c'est immense. Ici, c'est...
Oui, il y a 9 hectares. Bon, le bâtiment, c'est un bâtiment qui actuellement accueille 200 personnes. On achève des travaux dans les greniers pour accueillir 45 personnes en plus. Donc, on aura place pour 245 personnes. Et donc, bah, forcément, ça demande quand même pas mal de place. Maintenant, le parc, c'est un peu en plus. Les résidents en profitent en fait assez paradoxalement relativement peu, en dehors des aires de jeu ou de sport qui sont aménagées. Mais le bois en tant que tel, les résidents en profitent relativement peu, mais il est là. On loue un domaine entier et donc voilà, on l'entretient aussi.
Je voudrais qu'on revienne sur ces centres de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qu'on accueille ici ? J'imagine que ce n'est pas des blessés ici qui viennent.
Non, non. Donc ici, ce sont des demandeurs d'asile. Quand un étranger demande l'asile en Belgique, il le fait soit à la frontière ou à l'Office des étrangers. En gros, c'est à l'Office des étrangers. Et à partir du moment où il introduit sa demande, l'État lui prévoit une infrastructure d'accueil. Donc un accueil où il sera logé, nourri, où on va lui donner des kits d'hygiène, assurer un suivi social, suivi médical si nécessaire, d'autres choses qui viennent se greffer à cela, des possibilités de formation et autres. Et donc, pendant toute la durée de l'analyse de la demande d'asile de la personne est logée d'abord dans un centre, et puis après un certain temps, elle a la possibilité d'avoir une structure plus privative. La loi sur l'accueil prévoit qu'après 4 mois dans un centre communautaire, ils peuvent demander à passer dans une structure plus privative qu'on appelle les ILA, les initiatives locales d'accueil. Ce sont en général des appartements, des petites maisons qui sont gérées par des CPAS. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Donc, en gros, après 4 mois, ils ont la possibilité de demander à passer en structure privative. Alors, pour les isolés, il faut plus compter 12 à 15 mois. Et pour les familles, entre 8 et 12 mois, je dirais, pour pouvoir avoir une structure privative. Et la durée moyenne d'analyse d'une demande d'asile, on peut tabler sur 1 an.
Toi, aujourd'hui, tu es responsable du centre. Ça fait longtemps que tu travailles pour la Croix-Rouge.
Donc moi, mon statut ici, ben, je suis le directeur du centre et uniquement du centre. Donc c'est une équipe d'une grosse vingtaine de personnes qui se relaye 24 heures sur 24. Enfin, il y a des personnes qui n'assurent que les nuits, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est en prestation effective et qui est présent pour pouvoir répondre aux différentes demandes, faire face aux urgences qui pourraient se présenter, veiller que tout se passe bien. Mais forcément, il y a moins de monde la nuit que le jour. Donc il y a 2 personnes pendant la nuit et pendant le jour, ben, on a en général une petite dizaine de personnes.
Toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici ?
Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je travaille ici, donc presque 4 ans et demi, et un peu plus de 2 ans que je suis directeur du centre.
Comment t'es venu l'idée de travailler là-dedans ? C'était purement alimentaire ou je pense qu'il faut quand même avoir une vocation aussi pour travailler à la Croix-Rouge ?
Oui, c'était pas alimentaire du tout, du tout, du tout. Donc j'avais un autre emploi, mais voilà, j'ai eu envie de connaître ce secteur-là, de faire un peu quelque chose, enfin comme j'ai toujours eu des boulots qui me prennent beaucoup de temps, j'avais pas le temps, j'ai pas beaucoup de temps à côté. pour faire d'autres choses et j'avais envie d'être un peu utile. Et comme j'avais pas beaucoup le temps de le faire en tant que bénévole, je me suis dit autant le faire en tant que professionnel. Et voilà, je me suis orienté vers l'accueil des demandeurs d'asile parce que, je veux dire, j'avais quand même des accroches aussi dans le pays et c'était pas nécessairement évident de m'exiler. Donc c'est une autre manière, je vais dire, de s'exiler vu qu'il y a quand même en moyenne 35 nationalités dans le centre. Ça permet de voir du pays. J'ai un ami qui a travaillé dans un centre pour demandeurs d'asile. C'est grâce à lui que j'ai vraiment pu connaître ce qu'était la vie dans un centre et le travail dans un centre. Tout ce qui est migration, etc., c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps, enfin qui en tout cas m'intéresse beaucoup. Et j'avais envie de pouvoir... Enfin voilà, on a la chance d'être né en Europe. Quelque part, ben, j'avais envie de donner un peu de ça et de faire profiter un peu de ça à d'autres. Ou en tout cas, c'était vraiment me dire quand je rentre chez moi... J'ai peut-être fait quelque chose de bien aujourd'hui et c'est pas plus mal. Donc se sentir utile, mais utile dans quelque chose d'essentiel, quoi.
C'est quoi l'ambiance dans ce centre ?
Bon, l'ambiance, elle est assez conviviale. Il y a, bien sûr, il y a parfois certaines tensions parce que ben voilà, les gens sont amenés à vivre un peu, enfin dans une grande promiscuité, avec des personnes qui ne connaissent pas, qui sont d'autres cultures, qui ne parlent pas nécessairement la même langue. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a des fois, il y a des tensions, des fois des heurts. Il arrive que ça, je veux dire, que ça puisse tourner en bagarre. On n'a jamais eu de grosses situations catastrophiques à gérer. On essaye de faire un maximum de prévention pour que les choses se passent bien, que ça se passe, je veux dire, au mieux. Donc les résidents, quand ils arrivent, on signe avec eux un contrat de vie communautaire qui rappelle certaines règles de vie, de bonne vie en tout cas, et de bonne cohabitation. Mais globalement, ça se passe, je vais dire, très bien. On dit toujours, si voilà, il y a 200 résidents ici avec 35 nationalités différentes. Si je mettais 200 personnes de Natois pendant 2 semaines ici, ça serait ingérable, ça serait la guerre civile. C'est pas du tout le cas là. Ça fait donc plus de 4 ans qu'on a ouvert. Bon, voilà, on n'a jamais eu de grosses situations difficiles, vraiment très difficiles à gérer. Et on gère au quotidien. Je veux dire, on essaie de gérer sans bon père de famille, quoi.
Comment ça se passe avec les habitants autour? Comment le centre a été accueilli il y a 4 ans?
Ah, il a été accueilli avec beaucoup d'appréhension, beaucoup. Ça n'a pas été facile. Grosso modo, les gens voient que le centre amène relativement peu de nuisances parce que c'était une crainte face à l'inconnu. Bon, mais nos résidents voyagent dans le village, ils vont à pied jusqu'au magasin, ils vont à la boulangerie, ils vont se promener un petit peu aussi. Alors bon, certes, il y a parfois un peu de déchets, il y a parfois un peu de bruit, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a plus qu'il y en avait avant. Natois, historiquement, est un village où il y a beaucoup de vols dans les habitations, parce que situé entre deux grands axes routiers, hein, la Nationale 4, le 411, c'est historique, mais forcément, certains ont fait des raccourcis très faciles, et je veux dire, ça ne se passe pas toujours très facile, enfin, de manière très, très aisée. J'ai des fois eu à répondre à la population globalement, et dès qu'il y a un petit vol, il y a des soupçons qui pèsent, mais on essaye de garder le lien et de rester dans une ambiance constructive. Et bon, normalement, on y arrive plus ou moins, je pense.
Quand on va vendre des bougies dans un supermarché ou des calendriers pour une organisation, que ce soit la Croix-Rouge ou autre, on choisit son temps, on choisit le temps qu'on donne. Est-ce que c'est pas difficile de se mettre à disposition d'une organisation en tant que professionnel? En gros, on compte pas ses heures. Est-ce qu'il n'y a pas un surplus aussi d'utilité?
Oui, enfin, j'entends compter ses heures, c'est quelque chose que moi je ne connais pas parce que c'est inscrit dans mon contrat, c'est pas inscrit dans le contrat, mais en tout cas c'est implicite, c'est quelque chose qu'on ne compte pas. Il y a en effet une part de, je ne sais pas quel est le terme, si c'est du dévouement, de l'altruisme, quoi que ce soit, dans le chef de tout qui s'engage veut travailler dans un centre pour demandeurs d'asile ou vient y faire du bénévolat, mais il est très important de savoir faire la part des choses quand on rentre chez soi. En effet, on essaye de rester professionnel. Les travailleurs qui sont ici essayent de travailler comme des travailleurs sociaux, avec tout le professionnalisme qui s'entend. Et surtout de ne pas mêler le privé et le professionnel à ce niveau-là, parce qu'après, alors, ça ne nous permet plus de fonctionner correctement ici dans le cadre professionnel. Et c'est aussi au détriment des résidents, au final. Donc voilà, il faut arriver à garder cette distinction entre le privé et le professionnel. Et il faut arriver à faire abstraction de certaines choses quand on rentre chez soi le soir. Des fois, on pourrait estimer que c'est un peu, qu'on a un rôle un peu inhumain en rentrant, en sachant qu'il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'aide, mais il faut pouvoir passer le relais aussi aux autres collègues dont c'est le tour.
Ça fait un certain temps que tu travailles à Esperanza. Ça fait combien de temps? Comment t'es arrivé dans le festival?
Je ne sais plus combien d'années ça fait. Je crois que ce sera mon 7e Esperanza cette année, je pense. Comment est-ce que j'y suis arrivé? Par une connaissance qui était donc dans le CO, le comité organisateur. Moi, j'étais arrivé comme bénévole belle main, simple bénévole, parce que voilà, j'avais envie de connaître Esperanza et en même temps... pourquoi pas faire un peu bénévole, mais j'avais pas envie de responsabilité au début, parce que j'avais l'habitude d'en avoir beaucoup dans certains événements. Et puis, ben, très vite, je me suis rendu compte que c'était chiant un peu. Enfin, voilà, quand on a l'habitude de tenir un rôle plus central, ben, c'est. Voilà, j'avais envie de dire directement. J'ai dit à cette personne que si l'année suivante il y avait besoin de personne pour, enfin, de quelqu'un pour s'impliquer un peu ou pour tenir un poste, je vais dire de confiance, j'étais disponible. Et elle m'a pris au mot, et l'année suivante, j'étais dans le comité organisateur, et voilà, voilà ce qu'il en est, j'y suis toujours.
Cette responsabilité que tu as chaque année, donc qui est quoi? Qui est de nourrir, loger tout le monde?
Alors je ne nourris pas, je commande la nourriture, enfin, je ne loge pas, je gère les chambres, mais oui c'est un peu ça, donc c'est quelque chose qui manquait apparemment les premières années, les deux premières éditions, d'assurer un minimum de confort pour les travailleurs sur le site. Au départ, j'avais été, on va dire, recruté pour gérer plus le volet bar, mais on s'est vite rendu compte que Jean-Paul gérait ça beaucoup mieux que moi, je ne pourrais jamais le faire, en tout cas. Par contre, ben, y avait un manque au niveau surtout du catering et de la gestion des chambres, et donc j'ai repris ce rôle-là, et de fil en aiguille, ben, y a d'autres choses qui sont arrivées. En tout cas, ça s'est développé, ça s'est, je pense, amélioré. Voilà, d'année en année, ben, on construit un peu plus, quoi. Je pense que c'est un certain confort parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui proposent des dortoirs à leurs bénévoles. Maintenant, bon, je veux dire, c'est quand même assez spartiate aussi. Hein. C'est un bâtiment en béton avec des chambres très petites où il ne fait pas nécessairement frais quand on arrive le soir en plein été. Mais voilà, on a une infrastructure qui est là, qui est équipée. Donc les gens ont leur lit, ont leur évier, il y a des blocs sanitaires, etc. Le plus difficile est d'arriver à les maintenir en l'état. À éviter que les matelas et les lignes voyagent de chambre en chambre, ou en tout cas à les récupérer à la fin et à refaire la distribution correcte dans chaque chambre. C'est pas toujours facile de responsabiliser. On loge, à mon avis, un peu plus de 200 personnes, je pense, sur le site. C'est pas évident de responsabiliser tout le monde sans les connaître chacun. En tout cas de conscientiser au fait que bah, c'est important de pouvoir respecter le travail des gens qui viendront après pour nettoyer ou ramasser les crasses. Les travailleurs Esperanza, hein, qui ont, en fonction de la quantité de travail fourni, je vais dire, ont droit à une certaine forme de catering. Mais un catering est prévu pour tous les travailleurs sur Esperanza. Donc, que ça soit du sandwich pour le bénévole qui preste 3 ou 4 heures sur la journée, au catering complet, petit déjeuner, dîner, souper, pour les bénévoles qui travaillent en permanence, ou les travailleurs, il n'y a pas que des bénévoles. Forcément, mais les gens n'ont pas nécessairement le temps de, certainement pas de se préparer à manger, ou en tout cas, et pas non plus de faire la file au resto dans le souk. Voilà, on prévoit un autre catering qui est là, avec des tranches horaires plus larges, qui permettent de venir se servir quand on a un petit moment et de s'asseoir, de manger avant de repartir travailler. Les grosses journées, on est à plus de 300 couverts par repas.
Dans la Bavard, François, de refaire chaque année la même chose, parce que pour le coup, là, toi, tu refais quand même systématiquement la même chose, ou presque. Tu ne vois pratiquement rien du festival, il me semble, non ?
Ouais, depuis 2 ans, je vois quand même pas mal de choses. Le vendredi, je ne vois rien, ça c'est sûr, et c'est dommage, parce que c'est toujours le vendredi que je préfère la programmation. Le samedi et le dimanche, je vois quand même pas mal de concerts, parce que à ce moment-là, le gros du travail est fait. Je le fais surtout avant. Le gros du travail, c'est surtout les 15 jours qui précèdent le festival. Ensuite, c'est distribuer les clés, veiller que tout le monde est bien logé le vendredi, pallier aux petits problèmes techniques, etc. Donc là, en général, j'ai très peu de temps le vendredi. Mais par après, c'est plus relax. Ça me permet de passer un peu de temps avec ma compagne, avec mes enfants, etc. Et donc, je profite quand même un petit peu du festival, plus que beaucoup d'autres, en tout cas dans l'organisation. Maintenant, il y a un côté répétitif, oui, mais c'est aussi un travail, d'année en année, on retravaille avec les mêmes personnes, des personnes avec qui je m'entends bien, donc c'est agréable. Il y a un côté aussi peut-être un peu sécurisant, parce que j'ai de moins en moins de temps, comme j'ai envie de dire plus de responsabilités au niveau professionnel. J'ai moins de temps à consacrer à Esperanza, et donc c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un caractère répétitif, parce que je peux reprendre les bases de l'année précédente. Voilà, quelque part, je m'y retrouve. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas posé de soucis.
Il y a quelque chose que tu as appris ici dans ton environnement professionnel, ici dans le centre de la Croix-Rouge, que tu as appliqué à ton rôle à Esperanza. Est-ce que ça t'a donné des idées, ce centre de la Croix-Rouge ?
Je ne sais pas, j'en sais rien. Oui, sûrement, ça m'a sûrement amené des... Enfin, j'ai sûrement eu à faire face à différentes choses. En plus, quelque part, les bénéficiaires ici au niveau du centre vont parfois au festival. Et donc là, il faut un peu jouer sur les deux tableaux, mais sans mélanger les rôles. Et je sais que parfois, il peut y avoir conflit d'intérêts entre les deux positions. Et donc voilà, je vois dans quelle situation je me pose et je joue franc jeu avec l'une et l'autre partie. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas du tout envie que l'une prenne le pas sur l'autre. Et donc voilà, quoi. J'essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas très compliqué. Donc.
C'est quoi les retours des bénéficiaires du centre qui sont venus sur le festival ? Est-ce que tu en as rediscuté avec eux par la suite ?
Ils sont assez contents, parce que déjà, c'est une sortie, c'est un jour où l'occupation... Ils ne cherchent pas l'occupation, il n'y a pas de désœuvrement ce jour-là. Pour certains, c'est très chouette parce qu'ils peuvent voir des artistes de leur pays ou en tout cas de pays proches de chez eux. Je me souviens il y a quelques années, quand Salif Keita est venu, il y avait une file pour s'inscrire ici au centre pour être sûr d'aller voir Salif Keita. Pareil pour Tiken Jaffa Coli. Et donc, le retour, il est positif parce que Esperanza, c'est un lieu de fête avec de la musique de qualité, avec des infrastructures de qualité, avec une ambiance qui est là. Et donc les retours sont forcément positifs, mais par contre le retour à la réalité du centre est parfois peut-être douloureux parce que les gens ne se morfondent pas nécessairement, mais en tout cas les occupations sont rares et la majorité du temps c'est de l'attente et donc c'est pas toujours le temps ne passe pas très vite au centre.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Esperanza organise un concert hors festival comme il le fait au Théâtre de Namur ici au centre de la Croix-Rouge ? Je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs dans d'autres centres.
Ça pourrait s'envisager. Je ne suis pas sûr que Natoi est le meilleur centre pour faire un concert parce que certains riverains apprécient relativement moyennement, je dirais. Oui, pourquoi pas ? C'est sûr qu'il y a moyen de créer des partenariats. Il y a déjà des choses qui sont faites, je pense. De mettre aussi en lumière ce qu'est réellement l'asile et ce que sont les migrations. Je pense qu'Esperanza, à ce niveau-là, a déjà une certaine connaissance en la matière, en tout cas dans tout ce qui est rapport Nord-Sud. Et donc, je pense que ça pourrait rentrer dans le cadre, mais j'en fais pas un objectif personnel, loin de là.
Que tu as en tête un des meilleurs souvenirs de tes éditions d'Espéranza et le pire aussi, une anecdote pour chaque.
Oh, des bons souvenirs, il y en a beaucoup, beaucoup. Quand le site est fermé la nuit, où on fait le tour pour voir comment ça se passe et où bah, parfois nous on se relâche aussi et on se permet de faire des petites séances de air guitar sur la scène ou des choses ainsi.
Sur une des deux grandes scènes?
Sur la scène côté jardin, oui. Demande à Pablo et Bruno, ils t'expliqueront. Très bon souvenir au niveau artistique. La rue Quétanou, certainement, et Java. Deux concerts qui m'ont... Enfin, où j'ai trouvé une ambiance extraordinaire dans la cour. Plein d'autres super bons moments, ça oui, des rencontres, des échanges, des ci, des là. Des super moments en équipe, au niveau du travail, avec une grande solidarité dans l'équipe, donc ça c'est très chouette aussi. Des moins bons moments, il y en a eu. Il y en a eu surtout un. Voilà, un imbécile... bourré, qui est devenu agressif et je me suis interposé et je n'ai pas pris de coup, mais voilà, c'est un moment pas très agréable du tout, parce que c'est pas du tout pour ça que je fais Espéranza, c'est pas pour faire le gendarme, mais voilà, ça a dû arriver et on a géré la situation, mais ça c'est un mauvais souvenir.
Je sais que la Croix-Rouge est neutre politiquement, en tout cas dans tout le débat qu'il peut y avoir sur l'asile. En attendant, elle fait des choses. Qu'est-ce que tu voudrais comme changement à la fois dans ce centre, mais aussi dans les mentalités ou en tout cas dans la politique sur l'asile?
Je crois qu'il faudrait tout d'abord qu'on arrive à harmoniser la politique d'asile au niveau européen, afin que les migrations se répartissent un peu plus équitablement dans les différents pays. La Belgique est un pays qui, comparativement à beaucoup d'autres, accueille bien ses demandeurs d'asile et a un traitement, je pense, correct ou en tout cas relativement objectif de la demande d'asile. Et je donne un simple exemple, les Irakiens en Grèce, il y a moins d'1% de réfugiés reconnus pour les Irakiens qui demandent l'asile en Grèce. En Belgique, on est au-delà de 65%. Le texte sur lequel on se base est exactement le même, c'est la Convention de Genève. Donc voilà, je pense que tout d'abord, ça vaudrait la peine, enfin, en tout cas moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse harmoniser les pratiques. On harmonise certaines choses, ou en tout cas on voit des choses de manière globale et pas d'autres. Mais donc le traitement des personnes, en tout cas le respect de la dignité humaine n'est pas souvent respecté à ce niveau. Enfin, c'est pas souvent c'est pas souvent établi, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment dommage. Au niveau national, on est sans gouvernement, on a toujours peur. On sait pas, on sait ce qu'on a eu. C'était pas toujours bien, c'était pas toujours bon. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses qui se font. On sait pas vers quoi on va réellement. On a un peu peur, c'est sûr qu'on a envie de s'impliquer, de crier haut et fort. Maintenant, on ne peut pas le faire en tant que personnel Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge est neutre. Ce qui n'empêche pas que la Croix-Rouge, enfin, on a écrit un livre blanc, un plaidoyer, comme on appelle ça, la Croix-Rouge, qu'on a transmis au formateur, maintenant à l'informateur, maintenant au préformateur, et qu'on transmettra aussi à celui qui sera le formateur, on transmettra au gouvernement et au président de parti, relevant certaines choses, relevant des incohérences du système, relevant peut-être des choses qui seraient souhaitables, mais bon, les politiques en feront quelque part ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on est neutre qu'on ne peut pas s'empêcher de relever ce qui ne va pas, quoi.
« Христа истин чуби замахлюгуш, щел бела сакира кибах цало. Үйренен ойлано, яқұра тома, зезігін аренех сұхега еш. Сүйренен ғайғано, қой құралома, даймех ке безімца цәлета еш. Тақ нам согенара яна шухаста, Дога хасайн мараковла луш. Адамаш асдюху лямнях макаста. Шугасати синак яждилла уш. Адамаш асдюху лямнях макаста. Шугасати синак яждилла уш.